Dans votre plan d'avoir ce temps pour rendre grande destinée Jésus-Christ, pour cette grâce de venir partager le message avec vous, car c'est vraiment une bénédiction de déguster la parole de Dieu. Savoir cette parole qui est éternelle, cette parole qui est esprit, cette parole qui est vie, qu'est-ce qu'elle dit, c'est vraiment puissant. C'est vraiment gloire à Dieu pour cela. Ce qui m'a mis à cœur, ce que j'ai à cœur aujourd'hui, c'est de parler sur la puissance de la repentance. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est quelque chose qu'on saute souvent. C'est quelque chose qu'on néglige souvent. Et à cause de cela, souvent on ne voit pas de progrès. On ne voit pas de transformation. On ne voit pas de changement. Parce qu'on a oublié que ça commence par la repentance. Priez rapidement, prie le Saint-Esprit pour qu'il me conduise, pour qu'il nous soit présent avec nous. Saint-Esprit, merci Seigneur pour cet temps merveilleux. Je t'invite, viens prendre contrôle, que tout se passe selon ta volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la parole que Jésus-Christ a prévue, Seigneur, pour ce moment, que tu m'utilises pour relâcher cette parole qui va sortir avec puissance. Te remercions, Seigneur, nous mettons tout ce monde dans le sang de Jésus-Christ et que son nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, la puissance de la repentance. Bien-aimés, beaucoup sont arrivés en Christ par différentes portes. Il y a beaucoup, en fait, qui ont accepté Jésus-Christ parce que Jésus-Christ les a sauvés. Donc, ils étaient dans une situation peut-être de mort. Il y a eu un accident et par la grâce de Jésus, il a évité cet accident. Lui, le tonneau frappe, c'était à côté de lui. Donc, il a eu une expérience, en fait, où c'est que ça... Ça, c'est Dieu qui l'a sauvé. Ça, c'est Dieu. À cause de cela, il met sa foi en Jésus-Christ. Comme je causais avec une personne, il me disait qu'elle était petite. La voiture l'avait cogné. Un camion l'avait cogné. Et plus tard, il avait fumé, il était dans le coma. De là, il y a eu des expériences qu'il savait qu'en fait, qu'il devait mourir. Cette personne devait mourir, mais il a vu la main de Dieu. Ça arrivait plusieurs fois. Il a réalisé que ça, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est Dieu. Et à cause de cela, il a accepté Jésus-Christ. Ce qui est bien. Il y a d'autres, c'est ceux peut-être qu'ils étaient malades. Ils étaient à côté de la mort. Mais Jésus-Christ, on a prié pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ, ils étaient sauvés. Il sait que non, là c'est Jésus-Christ. Et il se donne à Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui étaient dans la persécution. L'ennemi les persécutait, les sorciers les persécutaient. C'était difficile. Ils ont eu une délivrance. La puissance de Dieu s'est manifestée. La puissance du Saint-Esprit s'est relâchée. Il a témoigné que non, là c'est Jésus. Il a choisi Jésus-Christ. Donc c'est pour le travail. Comme moi. J'étais sérieux avec Jésus-Christ parce qu'il cherchait le travail. Il m'a donné le travail. Donc, beaucoup de pères, beaucoup, plusieurs, en fait, ils sont Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, ils ont ouvert la porte sur le plan financier. Ils voient que les finances avancent. Ils voient que le business avance. Ils voient que ils ont l'abondance. Ils voient que Jésus-Christ est bon. Mais ils ne peuvent plus quitter. Ils savent que ils sont entrés par le travail. D'autres, c'est la joie. Je dis qu'il est dans la paix. Il y a cette paix, il y a cette joie, il y a cette assurance. Mais que beaucoup de nos jours, les gens cherchent la paix, ils ne trouvent pas. D'autres, c'est le mariage. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont jeûné. Jésus-Christ apporte le mari. Là, ils se donnent à Jésus-Christ. Ils sont entrés par la porte du mariage. D'autres, c'est même parce qu'il y a le paradis et l'enfer. Il veut partir au paradis. Il sait qu'après la mort, il y aura une place éternelle, deux endroits. Et là, il voit que Jésus-Christ, c'est la porte pour le paradis. Il choisit le paradis. Donc, il y a plusieurs raisons d'entrer. D'autres personnes, en fait, eux, c'est parce que Jésus-Christ les aide à avoir une bonne vie. ils ne marchent pas dans la fâcherie, ils aiment les autres, ils ne sont pas dans les bagarres, ils ne sont pas dans l'oppression. C'est-à-dire la vie chrétienne en soi, sur le plan moral, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui est bien pour la société, c'est quelque chose qui est bien pour le business, c'est quelque chose pour bien pour vivre ensemble. Donc ils sont à l'aise étant chrétiens parce qu'il y a cette moralité, cette manière de conduire, ça conduit à une bonne vie. C'est contre la débauche, c'est contre l'immoralité sexuelle, donc c'est contre ceux qui boivent beaucoup. Donc les paroles, les directives en fait, ils aiment ça. Ça conduit à une bonne société. Ça conduit à l'épanouissement. Et pour eux, bon, on va prendre Jésus-Christ. C'est vrai. C'est qui est vrai. On peut testifier cela. Donc voilà d'autres portes. Il y a l'homme le plus riche du monde, ou l'un des plus riches du monde, Elon Musk. On a fait une interview récemment. Et il dit en fait que lui, il est un chrétien culturel. Donc, il n'est pas comme un chrétien qui va à l'église, mais il dit que lui, en fait, c'est un chrétien culturel. Parce qu'il voit que la valeur, les valeurs chrétiennes, les valeurs que la Bible soulève, c'est bien. Il aime cela en tant que businessman, ça l'arrange. Et pour lui, c'est normal. Il voit que les gens doivent vivre de cette manière. Donc, il s'appelle chrétien culturel. Je ne savais même pas qu'il y avait ce genre de terme. Ça m'a étonné dès que j'écoutais cela. Un chrétien qui est culturel. Donc, parmi tous ces portes, donc, il y a beaucoup qui sont entrés et ils s'identifient en fait comme chrétiens. Beaucoup même partent à l'église. Mais s'ils mettent le moulin avant le bœuf, donc quand on fait quelque chose, quand on veut que quelque chose marche, il faut qu'on le fasse correctement. Vous voyez, Jésus-Christ, il a des moyens pour attirer ses enfants vers lui. Il a des moyens pour... C'est comme si vous faites la course à quelqu'un. Vous savez qu'ils sont mariés, quand vous sortez avec votre copain, copine. Au départ, il y a cela dont votre copain utilise certains, c'est qu'il en fait pour... que la porte s'ouvre et pour que vous commenciez cette conversation sur le plan maintenant émotionnel. Donc Jésus-Christ aussi, le royaume de Dieu aussi, utilise cela pour vous attirer, pour que vous le connaissiez sur ce plan qui il est, qui est Jésus-Christ. Mais il veut utiliser la guérison, il veut utiliser les miracles, il veut utiliser l'abondance financière, il a cela. Mais c'est pour vous attirer et pour que vous ayez une relation. Donc c'est important qu'on enseigne la vérité. Qu'on enseigne et qu'on se focalise sur ce côté de relation. Parce que c'est plus. Beaucoup de personnes n'entrent pas dans ce côté de relation et restent sur le plan vulgaire. C'est pour ça qu'on parle de religion. Il n'y a pas cette relation. Et beaucoup en fait, ils ne veulent pas le dire, ou ils ne veulent pas enseigner cela parce qu'ils ont peur que les membres vont fuir. Que s'ils entrent en profondeur, s'ils commencent à enseigner la vérité, les membres vont partir. Donc ils pensent que la vérité va faire chasser les membres. C'est quand même intéressant ce concept. Mais on doit savoir qu'en tant que chrétien, que nous n'appartenons pas aux gens, nous n'appartenons pas, c'est pas qu'on est membre de l'église, nous appartenons à Jésus-Christ. Et comme étant les disciples de Jésus-Christ, il faut qu'on marche dans la vérité, il faut qu'on dise la vérité. Donc ceux qui sont entrés dans ces différentes portes, c'est quoi la vérité? Quel est ce message? Matthieu 4, 17 dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ici, Jésus qui a prêché la repentance. Et c'est souvent ce que beaucoup oublient. Qu'on entre dans toutes ces différentes portes, on vient avec nos bagages, on vient avec nos mensonges, on vient avec le vol, on vient avec l'idolâtrie, on vient avec l'immoralité sexuelle, on vient avec toutes sortes de bagages. Parce que Jésus-Christ est mort quand on était encore pécheur, quand on était encore ennemi. Donc on entre, on l'accepte avec tout cela. Donc les chrétiens, ils deviennent chrétiens avec tous ces bagages. Oui, c'est très bien. Mais quand on va maintenant un peu en profondeur, quand on va maintenant sur le processus d'un chrétien, de sanctification, on doit aussi parler d'un point qui est indispensable, qui est la repentance. Parce que Jésus-Christ, il a prêché la repentance. C'est un terme qui est biblique. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est un changement de direction. Dans les manières, la manière dans laquelle on pensait avant, cela doit être changé. Ça veut dire qu'on doit renoncer à notre passé. On doit renoncer à notre ancienne identité. Car maintenant, il y a une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. L'ancien homme est mort. On doit renoncer à l'ancien homme. On doit se détacher de l'ancien homme. Ça, ce n'est pas la repentance. Donc, il y en a beaucoup avec tous ces bagages. Quand la vérité est claire, quand la lumière est claire, on est regardé à ces bagages. Et c'est là qu'on va passer au processus de repentance, au processus de séparation. Et souvent, ça fait mal. Souvent, c'est difficile. Des bagages de 10 ans, de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Là, maintenant, Jésus-Christ parle de repentance. Donc, on doit se détacher. On a changé de chemin. On doit se tourner. Juste une parenthèse. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce mot repentance. Surtout, là, je parle maintenant sur le plan des relations, qu'elles soient avec les amis, qu'elles soient avec les maris et femmes. Le mot de repentance n'existe pas. Donc, eux, ils ont toujours raison. Il n'y a pas de repentance. Qu'elles soient les discussions, qu'elles soient les conflits, toujours raison. Mais c'est impossible de changer si on ne se repent pas. Comment changer donc s'il n'y a pas de repentance? C'est impossible. Parce que le changement commence par une reconnaissance. On voit les états qu'en fait ceci était mauvais. Et qu'il y a cette reconnaissance, c'est maintenant un changement de direction. Mais s'il n'y a pas de reconnaissance, si on est toujours juste, si tout ce qu'on fait est toujours juste, mais comment il y aura un changement? Donc, ferme la parenthèse. Continuons. Donc, et c'est dans ce cas où beaucoup de gens sont testés. Parce que là, il y aura une séparation. Donc, vous venez à Jésus-Christ avec l'amour de l'argent et l'argent n'est plus la priorité. Il vous dit que l'argent n'est plus la priorité. Vous venez à Jésus-Christ, vous êtes un grand bandit que Jésus-Christ vous a sauvé. Maintenant, il faut se séparer du banditisme. Ce que vous avez fait toute votre vie, Jésus dit, séparez-vous. Et beaucoup se disent, mais je n'ai jamais signé pour cela. Je n'ai jamais dit que je devais me séparer du banditisme. J'aime Jésus, mais je ne me sépare pas de cela. Donc, beaucoup sont coincés à ce niveau de repentance. Il y a les anciennes vies qui les tirent. Mais ils savent que Jésus-Christ est le chemin. En fait, ils savent. Parce qu'ils ont expérimenté cela. Ils ont expérimenté la grâce de Dieu. Ils ont marché dans la grâce de Dieu. Mais quand on dit repentance, c'est difficile. Vous voyez, je vais prendre un exemple. Il y a certains pays qui n'acceptent qu'une seule citoyenneté. Ils n'acceptent pas la double citoyenneté, c'est juste une seule citoyenneté. Donc vous devez faire un choix. Soit vous gardez votre citoyenneté, ou si vous avez une nouvelle citoyenneté, vous devez relâcher l'ancienne. Vous devez vous détacher de l'ancienne. Vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est la même chose avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et que vous ne vivez pas de la repentance, qu'il n'y a pas eu ce processus de repentance. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens étonnent les gens. Dans, en fait, eux, ils étonnent ceux qui ne sont pas chrétiens, et ils étonnent aussi ceux qui sont chrétiens, parce qu'on ne sait pas où ils se trouvent. Ceux qui ne sont pas chrétiens, leurs péchés sont là, l'immoralité sexuelle, ils font comme eux. Et vous savez, ceux qui sont chrétiens, les vrais chrétiens, eux témoignent qu'en fait, qu'il y a aussi ce péché dans cette personne. Donc, ils étonnent les deux. Le non-chrétien dit, mais est-ce que c'est un chrétien? Les chrétiens disent, mais est-ce que c'est un chrétien? Donc, en fait, vous êtes où? Parce qu'il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas cette catégorie dont les êtres humains, ils veulent inventer une catégorie de milieu. Avec Jésus-Christ, dans cette vie, il n'y a pas de catégorie. Soit vous êtes avec l'un, soit vous êtes avec l'autre. Et bien aimé, si vous n'avez jamais renoncé à l'ancienne vie, c'est là-bas où vous êtes toujours attaché. Parce que vous devez renoncer. Tant que vous ne renoncez pas, il y a toujours ce lien, il y a toujours cette connexion. Tant qu'il n'y a pas cette repentance, tant qu'il n'y a pas ce détachement, ça veut dire qu'il y a toujours cette connexion, même sur le plan légal. Vous n'avez pas refusé, il y a toujours cette alliance. Donc, quelle est votre sexualité? Est-ce que c'est du royaume de Dieu? Est-ce que c'est la citoyenneté céleste? Ou c'est la citoyenneté de la terre, la citoyenneté terrestre? Et cela ne se détermine pas par ce que vous dites, parce qu'on peut dire plusieurs choses, mais cela va se déterminer par ce qui est dans votre cœur et l'expression de cela par vos actions. Par vos actions. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, vous les jugerez par leurs fruits. Donc, si vous avez un manguier, ça ne, les pommes ne peuvent pas sortir du manguier. Les fruits de la pomme ne peuvent pas sortir du manguier. Donc, de quelle citoyenneté êtes-vous? Parce que vous ne pouvez pas, et c'est impossible d'être de la citoyenneté du royaume de Dieu sans la repentance. C'est impossible. Parce qu'avant, vous étiez en train de marcher sur le chemin de l'enfer. Avant, vous étiez ennemi à Dieu. Avant, les œuvres qu'on faisait étaient les œuvres du diable. Donc maintenant, pour partir au paradis, il y a un changement. Il y a un changement, il y a ce détachement. Donc, c'est un virement de 180 degrés. Ça demande une repentance. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas écouter le mot repentance. Beaucoup d'églises ne veulent pas parler de la repentance parce que ça rend les membres mal à l'aise. Mais pourtant, Jésus-Christ l'a fait. Vous voyez, c'est important de savoir qu'on n'est pas du côté pour rendre juste les gens contents, mais on est du côté de Dieu. On cherche la vérité. On dit ce que Jésus-Christ aurait dit. Dans 2 Corinthiens 4, 16, 2 Corinthiens 6, de 14, 16, ça dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Est-ce que la lumière se mélange avec les ténèbres? Non. Il faut cette repentance. Donc, quand on parle de repentance, bien aimé, ça demande et ça exige une séparation. Il doit avoir une séparation. Voyez-vous vous rappeler de ce passage de la Bible où Jésus-Christ a dit des paroles qui étaient fortes. Il avait environ 70 disciples. Il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de lui. Il a dit que si vous ne mangez pas mon corps et ne buvez mon sang, vous n'avez rien à faire. Moi, vous ne pouvez pas aller au paradis. Et beaucoup de gens l'ont quitté. Ce jour-là, les disciples sont partis. Plus de deux tiers. Quand vous êtes dans une église, vous prêchez la vérité, plus de deux tiers partent. Mais qui ça peut être difficile à faire, mais c'est ça qu'on voit plus de nos jours. Mais les disciples, en fait, sont restés. Ils sont restés. Jésus qui les a demandé, mais pourquoi vous restez, vous ne suivez pas les autres? Mais ils ont répondu, mais que il a la parole de la vie. Il a la parole de la vie. Ils savent que la vie, c'est Jésus-Christ. Même s'ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas aller dans les ténèbres. Ils ne veulent pas rester dans les ténèbres. Ils veulent se séparer de cela. Ils se sont séparés des ténèbres. Ils ont choisi Jésus-Christ. La Bible dit encore que les disciples ont dit qu'ils ont tout laissé pour suivre Jésus-Christ. Ils se sont séparés. Il y a cette séparation. Ils ont tout laisser pour être des disciples. Donc ça demande une séparation. Ils vivaient dans les ténèbres. Ils ont choisi la vie. Jean 3, 19 à 21 dit ceci. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Waouh! Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites de Dieu. Donc ici, c'est la parole de ceci. Que les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière parce que les œuvres sont mauvaises. Donc ceux qui sont entrés avec des œuvres mauvaises, ceux qui sont entrés avec ces fardeaux, souvent ils refusent de se repentre parce qu'ils aiment leurs œuvres. Les œuvres sont mauvaises et ils aiment les œuvres. Ici ça continue. Ils ne veulent pas que les œuvres soient dévoilées. Mais ici, souvent, ils partent. Souvent, ils quittent la foi. Parce qu'ils refusent de se détacher de leurs œuvres. Ils refusent de laisser les œuvres partir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur. Et oui, Jésus qui les a sauvés, Jésus qui les a délivrés. Je veux qu'il les a restaurés. Je veux qu'il les apporte la provision. Mais vous voyez Jésus-Christ comme sauveur, oui. Mais Seigneur, nada. Il refuse. Il refuse. Parce que quand on parle de Seigneur, ça parle d'obéissance. Ça parle de soumission. Ça parle de se positionner et de suivre la direction de Dieu. Et cette direction que Dieu nous demande à prendre, ça demande la repentance. Donc, ils refusent Jésus-Christ comme Seigneur. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens. Ils vont dire qu'ils aiment la Bible. Ils vont dire qu'ils aiment Jésus-Christ. Qu'ils aiment l'amour, que l'amour, c'est l'amour. Ils vont citer les versets d'amour, les versets de pardon. Ils aiment ça. Mais quand on parle de repentance, non. Non, ils ne veulent pas avoir Dieu comme le Seigneur. Ils refusent cela. Il refuse sa repentance. C'est-à-dire qu'en fait, il aime le péché. Parce que si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur, quelque chose d'autre va prendre cette place. Parce qu'on a été créé en fait pour worship. On a été créé pour adorer. Donc si on n'adore pas Dieu, on va adorer d'autres choses. Vous savez que c'est peut-être que pour certaines personnes, c'est l'argent. Pour certaines personnes, ça peut être d'autres personnes. Donc, il y aura, comme on dit, la nature a horreur du vide. Il y aura une autre chose qui va prendre cette place. Si ce n'est pas Dieu, c'est quoi? Si Dieu n'est pas votre Seigneur, la question à se poser, c'est qui est votre Seigneur? C'est l'amour de l'argent? C'est l'amour des habits. Ah, pour certaines personnes, ils ne blaguent pas avec les habits. C'est terrible. C'est l'amour du shopping. Mais qu'est-ce qui prend cette place? Parce qu'il y a quelque chose. C'est l'amour de la télévision. Romains 6, 16 dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, vous lui obéissez? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, ce qu'il est en train de dire, en fait, c'est que le péché qu'on commet, qu'on ne fait que répéter, répéter, on devient esclave de ce péché. Si Dieu n'est pas notre Seigneur, il y a un péché dans lequel ces personnes sont esclaves. Est-ce que c'est la boisson? Donc, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'en séparer. Quand on dit esclaves, c'est-à-dire qu'ils obéissent à ce péché. Et un esclave qui refuse de quitter son maître, il refuse de quitter ce péché. C'est pour ça qu'il refuse la repentance. Parce qu'il sait que la repentance, ça veut dire qu'ils doivent quitter ce péché. Pourtant, ils aiment ce péché. Dans leur désir, ces désirs sont les meurtres. C'est comme j'ai rencontré une personne il y a quelques jours. C'est quand j'ai parti évangéliser. J'ai demandé à la personne est-ce qu'il est en Christ? Il dit oui, il est en Christ. Est-ce qu'il croit en Jésus-Christ? Oui, il croit en Jésus-Christ. Est-ce que tu vas partir au paradis? Et là, il dit qu'il n'est pas sûr. Il dit mais je ne comprends pas. Tu as toutes les questions et tu as bien répondu. Mais comment tu n'es pas sûr? Et il me dit que son cœur, que ses pensées sont au Seigneur, mais que ses membres sont dans le péché. Donc, qui veut servir, qui croit en Jésus-Christ, il croit que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il a sauvé, mais qu'il est dans le péché. Il me dit, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu cette repentance. Parce qu'il n'y a pas eu ce changement. Souvent, il y a d'autres éléments à regarder. Il n'y a pas eu ce changement. On va lire notre verset du jour, Marc 15. On lit verset 27 à 33. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuraient et secouaient la tête en disant, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rabâtis en trois jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres. » Et il ne peut se sauver lui-même. Quand le Christ, le roi d'Israël, descend maintenant de la croix, ainsi que nous voyons et que nous croyons, ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Ici, au verset 29, il y avait deux brigands qui étaient crucifiés. Au verset 32, on dit aussi que ces deux brigands insultaient aussi Jésus-Christ. Donc ces brigands, ils avaient sûrement fait quelque chose, ils se sont volés, ils avaient fait des choses. Ils étaient en train d'insulter Jésus-Christ, comme les pharisiens, comme les scribes, comme ceux qui étaient autour, ils insultaient Jésus-Christ. Et ici, ils faisaient partie de ces gens. Ils faisaient partie de ce groupe. Donc ça, c'est selon ce que Marc a dit. Alors, selon ce que Marc, l'évangile de Marc, ça, c'est sa version, ce qu'il relate. Parce que vous voyez, quand un événement se passe et que vous voyez deux personnes qui relatent ces événements, ils vont relater ça de différents angles. Souvent aussi en fonction du message qu'il veut passer à son audience. Mais on va partir voir ce que Luc a relaté dans cette même scène. Qu'est-ce que Luc a entendu par rapport à cela? Quel est l'évangile de Luc? On va lire Luc 23, de 33 à 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentèrent du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifié l'injura, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le réprimait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. On va s'arrêter là. Donc, vous voyez bien, Marc dit que les deux ont insulté Jésus-Christ. Luc dit que c'est juste un qui a insulté Jésus-Christ. Dans lequel des versions, lequel des récits est vrai? Beaucoup vont dire que non, il y a une contradiction. Comment l'un dit que l'autre, les deux insultés, l'autre dit qu'il y a un qui est insulté. Il y a une contradiction, mais en fait, il n'y a pas de contradiction. C'est deux personnes qui ont des récits qu'ils ont reçus d'une même scène. Dans la scène de Marc, le deuxième brigand, les deux brigands insultaient Jésus-Christ. Mais dans la version de Luc, ça montre qu'il y a eu un changement, il y a une transformation, il y a une repentance, changement de pensée. Quelque chose s'est passé avec le deuxième brigand pour qu'il change son vocabulaire. Avant, il insultait Jésus-Christ, mais qu'il a maintenant eu cette connaissance de qui est Jésus-Christ. Il y a eu un changement. Et cette connaissance, ce n'est pas que c'est Jésus qui lui a donné quelque chose. Il a connu Jésus-Christ d'une manière comme Dieu. Et ici, il parle de Christ. L'un des malfaiteurs crucifié l'injure disant, là c'est le premier, le deuxième dit, mais l'un le reprimait en disant, n'es-tu pas, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il a reconnu l'innocence de Jésus-Christ. Donc, il y a eu ce changement. Il y a eu cette repentance, transformation de pensée. Et qu'est-ce que ça a conduit? Il dit ceci. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc, il sait que Jésus-Christ vient dans ce règne. Il sait que Jésus-Christ revient pour régner. Waouh! Regarde l'état du cœur de ce brigand à la croix. Il va bientôt mourir. Il n'y a presque rien à craindre, rien à perdre. Un insulte, l'autre capture cette révélation divine de qui est Jésus-Christ. Waouh! Il partait déjà. Dans quelques heures, il devait être parti direction en enfer. Il a insulté Jésus-Christ. Mais il a reçu la révélation. Il a eu à faire un choix bien-aimé. Un choix lui a été présenté. Soit tu continues dans ce chemin qui va te mener en enfer, soit tu t'arrêtes, tu contemples la vérité, tu contemples la lumière et tu reconnais cette lumière, tu changes de chemin. Il a accepté cela. Il a choisi le chemin de la vérité. Il a choisi le chemin qui conduit au paradis. C'est pas facile. On n'a pas dit que c'est facile. Jésus-Christ n'a pas dit que c'est facile. Mais ça demande qu'on doit détester le péché. Ça demande qu'on doit chercher la vérité, la réalité, Jésus-Christ. Ça demande un cœur qui est humble, un cœur qui est humble. Mais que pour se repentir, il faut qu'on sache d'abord qu'on a tort. Il faut qu'on sache d'abord qu'on marche sur le mauvais chemin. Il faut qu'on sache d'abord que les actions que nous sommes en train de prendre conduisent à la mort. Comme Romain a dit. Qu'on réalise cela. Que ces actions conduisent à la mort. Et qu'on voit la vérité. Là, la décision sera facile. Là, on ne va même pas réfléchir deux fois. Mais beaucoup pensent qu'il y a une deuxième chance, troisième chance, quatrième chance. Ce brigand l'a demandé à Jésus. Quand tu viendras ton règne, souviens-toi de moi. Verset 43, Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Wow. Voilà la puissance de la repentance. Ça te conduit, ça crée le chemin, ça te dirige vers le paradis. La repentance, c'est ce prérequis, c'est cette nécessité qui est demandée pour entrer dans le paradis. Ce brigand ici s'est repenti. Et Jésus a dit, ce soir, tu seras au paradis. Il va encore donner un autre exemple. Donc, lors de mes sorties d'évangélisation, j'ai rencontré une autre personne. J'ai demandé à cette personne si elle connaît Jésus-Christ. Elle dit oui, que Jésus-Christ est son Seigneur Sauveur. J'ai demandé à cette personne va à l'église. Elle dit oui, qu'elle va à l'église. Tout semble très bien. Je demande à la personne, ok, ah, ça c'est une question facile. Tu vas partir au paradis ou en enfer. Elle me dit carrément l'enfer. Mais là, j'étais surpris. J'étais choqué. Mais je me demande, mais où se trouve le problème? Où est le décalage? Je ne comprends pas. Tu es chrétien? Tu vas à l'église? Tu connais Jésus-Christ? Mais pourquoi tu parles de l'enfer? Ça n'avait pas de chance, mais pas la grâce, je suis pas là en profondeur. J'ai dit, mais pourquoi tu parles de l'enfer? Tu sais qu'il est venu prendre tes péchés. Elle savait que Jésus-Christ était venu prendre ses péchés. Elle dit, parce qu'elle fait des mauvaises choses. Parce qu'elle fait des mauvaises choses. Quand on parle de faire des mauvaises choses, c'est un cycle que la personne ne veut pas lâcher. Et cette personne connaît la route au paradis. C'est comme si une personne est en prison, la porte est grandement ouverte, elle sait que la porte est ouverte, elle sait qu'elle peut se lever et sortir et marcher dans la vérité. Elle a cette connaissance, elle a accepté cela. Mais cette personne reste assise en prison. Parce que ces choses qui sont en prison, elle ne veut pas lâcher. Donc cette personne, en fait, avait plaisir a fait ces choses. Elle connaissait le chemin du paradis, mais elle a choisi de rester dans le péché. Il y en a beaucoup. Ils sont entrés, Jésus-Christ les a sauvés. Mais parce qu'ils aiment le péché, ils refusent sa repentance. Jésus-Christ les a guéris. Oh. Ils ont crié à Jésus, ils ont prié, ils ont jeûné. Jésus-Christ a guéri, ils ont vu la gloire de Dieu se manifester. Étant dans le péché, ils ont vu la gloire de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ demande, ok, c'est le temps de se repentir. La personne dit, non. Parce que cette personne aime le péché. Les gens que Jésus-Christ a élevés dans des promotions, élevés en haut. Maintenant, c'est le temps de la repentance. Il refuse. Parce qu'il aime ce qu'ils sont en train de faire. Donc, bien aimé, la repentance est indispensable pour aller au paradis. Beaucoup de personnes sont dans le péché, restent dans le péché. C'est comme un cycle de vie. Connaissent le chemin pour le paradis, mais refusent. Et ils savent qui sont en train de marcher dans l'enfer. Donc peut-être que vous êtes sur ce chemin. Peut-être que vous savez que vous êtes en train de noyer, de nager, de vous noyer même dans le péché. Ceux qui sont des grands sorciers qui refusent de quitter la sorcellerie. Ils veulent rester à l'intérieur. Ceux qui sont dans la spiritualité, nouvelle âge, ils savent que c'est le péché. Mais quand on dit repentance, ils refusent. Pourtant, vous connaissez le chemin. Et beaucoup pensent qu'ils sont plus sages que Dieu. Ah, c'est terrible de penser que vous êtes plus sages que Dieu. Ils pensent qu'ils attendent la dernière seconde. Qui est la dernière seconde avant qu'ils vont mourir. C'est là qu'ils vont se repentre. La Bible dit qu'on ne doit pas se moquer de Dieu. La Bible dit ceci, qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Comme cette personne, ce brigand qui était cloué sur la croix, dès qu'il a connu que Jésus-Christ, dès qu'il a eu cette révélation sur le champ, il s'est repenti. De la même manière, on ne sait pas quand on va partir. Vous ne savez pas quand vous allez partir. Donc si tu es sur ce chemin, si tu es ennemi à Dieu, tu sais que tu es ennemi à Dieu, tu le sais. Que tu es sur cette voie de l'enfer. Ne continue pas dans ce chemin. Aujourd'hui, maintenant, c'est le temps du salut. Et c'est disponible. Dans ce temps de se repentir. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de changer de chemin. De changer de mentalité. Et pour ceux qui sont fermes, parce qu'il y a certains que le corps a tellement pris de force, certains que le corps a été pollué, certains que il n'y a même plus cette force, c'est difficile. Et tu as dit, vous voulez vous rependre, mais c'est vous tombez. En fait, vous vivez à l'intérieur. Et souvent, vous détestez même cela. Vous criez même à Dieu. C'est comme Romains 7. Vous voulez faire le bien, mais vous êtes en train de faire du mal. Vous voulez quitter du péché, mais vous vous retrouvez encore dans le péché. En fait, c'est quand même vous voulez quitter que vous entrez encore plus en profondeur. C'est difficile, mais vous avez ces désirs. Votre cœur crie à Dieu, crie à Dieu. Donc, pour ces personnes, je vais vous encourager de demander de l'aide au Seigneur. Dans la prière, de chercher la délivrance. Parce que souvent, ce n'est pas juste la chair. Vous savez que derrière, il y a des forces maléfiques qui sont en train d'amplifier ce désir d'aimer le péché. Et vous encouragez de lire la parole de Dieu chaque jour. Vous encouragez d'aller à l'église. Et ceci, ce prochain point est peut-être très difficile, mais de changer votre environnement. Changez vos fréquentations. Si vous voulez quitter ce péché, vous devez changer votre environnement parce que votre environnement a un impact très puissant sur vous. Que ce soit vos amis avec qui vous marchez, vous savez bien que ces amis aiment le péché. Vous savez bien que ces amis, ils aiment les montées sexuelles. Ils aiment boire. Qui sont des conducteurs. Ils accélèrent ce processus d'aller dans le péché. Séparez-vous, ne réfléchissez pas 4 fois. Séparez-vous immédiatement. Parce que là, c'est votre vie. C'est votre destinée qui est en jeu. Coupez ces liens. Priez le Seigneur qu'il coupe tous ces changer d'environnement. Parce que vous avez été choisi, vous avez été appelé. Jésus-Christ est mort pour vous. Donc vous devez quitter. Tout ce qui vous conduit à faire ce péché. Que ce soit dans un quartier où vous trouvez, il y a la drogue, il y a un quartier vraiment qui vous savez que là, c'est tout le monde qui fait ça. C'est tout le monde qui fait ça. Quittez ce quartier. Quittez. Parce qu'il y a des moments de la vie où le Seigneur veut vous prendre, vous amener à un endroit où vous travaillez avec vous. Souvent, c'est simplement un endroit de solitude. Quel pas de solitude, c'est-à-dire vous séparer de vos anciens amis. C'est un moment où vous avez peut-être un ami, deux amis, où le Seigneur va travailler en vous. Il va enlever ses anciens désirs. Il va élever ce qui vous amène dans le péché. Si vous avez les social media, c'est-à-dire quand vous regardez certaines choses, ça amène des pensées terribles. Coupez cela. Donc ici, je parle d'une séparation de l'environnement. Et pour terminer, cherchez une personne avec qui vous devez être accountable. C'est-à-dire une personne avec une personne, un homme de Dieu, une personne qui est dans le Seigneur, à qui vous devez, qui pourra voir votre progrès, à qui vous pouvez vous reporter. Parce que c'est important dans l'église. On a appelé de marcher ensemble comme frères et sœurs. Donc vous voulez être accountable to someone. Ou là, vous une personne qui vous a, vous faites des, c'est comme faire des rapports, une personne avec qui, c'est-à-dire qui vous surveille sur le plan spirituel, qui vous pouvez grandir. Et par la grâce de Dieu, si vous faites cela, vous allez quitter cet état de pécheur, cet état qui vous conduit à l'enfer, et marcher dans la voie de la repentance qui vous conduit au paradis. Et vous donne ceci, dans le nom de Jésus-Christ.
Amen.